seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Ah, es-tu bien accompagné, ce Marceau-là? Audrey Pinchot qui est en studio, me prouve depuis, je vous dirais, 20-30 jours à peu près, qu'elle a du caractère.
C'est drôle que tu dises ça parce que je répète souvent à des collègues des corridors ici qui me disent « Ah, t'es tellement douce. » Puis je suis comme « Non, non, j'ai vraiment mauvais caractère. J'ai un tempérament doux. Mais je... C'est ça, j'ai mauvais caractère. »
Il y a des épisodes dans ta vie où, à un moment donné, si on te pile...
Mais non, mais on est toutes plus irritables des fois.
Si on te considère comme un paillasson.
Ouais.
Comme un tapis. À un moment donné, tu dis « Non, c'est fini. C'est là que ça arrête. »
Mais je pense, tu sais, il y a des gens comme ça qui ont la patience longue, tu sais, puis qui... Il n'y a jamais de problème, tout ouais. est tout le temps beau. Mais un moment donné, tu dépasses une certaine limite, puis là, ça mord, mettons. Mais je pense que je fais partie de ces gens-là.
Bienvenue dans le club!
Je suis un peu dans une passe dans ma vie, dans les dernières semaines, où j'ai un peu la mèche courte pour mille et une raisons personnelles. Puis je me rends compte que j'ai vraiment un caractère de merde.
Ouais. Mais tu sais quoi? C'est pas nécessairement un défaut d'avoir un caractère de merde une fois de temps en temps, mais le défaut que j'ai moi aussi, c'est d'accumuler constamment.
C'est ça.
Puis à un moment donné, les gens, ils... Parce que les gens, sans le savoir, c'est instinctif, ils te testent. Hein?
Mais oui.
Par rapport à ton caractère, par rapport à ce que tu peux...
Ah, puis tu donnes une main, ils prennent un bras.
Absorber
puis...
comme information, par rapport à ce que tu peux absorber comme reproche et tout ça. Donc les gens, sans le savoir, instinctivement, sont constamment en test avec toi-même. Je dis toi, mais ça peut être les gens qui sont dans leur voiture,
ouais.
avec moi et tout ça. Donc, si au départ, tu ne fixes pas tes limites, c'est-à-dire, regarde, ça, c'est la ligne, là, puis tu es sur le point de la franchir, t'arrêtes maintenant, bien, eux, là, ils vont toujours pousser la ligne
tough,
plus
ça,
loin
Yann.
Vers toi.
T'es capable, toi, de mettre tes limites?
Pas tout!
Moi, c'est mon plus gros enjeu de vie. Je suis pas capable de dire non, je suis pas capable de mettre mes limites. C'est tout le temps, ben oui, je vais le faire, oui, il n'y a pas de ouais. problème. Tu sais, il n'y a jamais de problème.
Un certain soir où je dis non, on a le bon.
Ah, mais
pas ce soir, j'ai mal à la tête.
J'ai mal à la tête, ben oui.
Pas ce soir, j'ai mal à la tête.
Oui, comme si ça arrivait.
Quelqu'un qui demande si t'es enceinte?
Si je suis enceinte?
Oui.
C'est une vraie question?
Ben là, oui, c'est Patrick qui veut savoir ça. Au 418-971.
Hé! Tu vois, j'ai mauvais caractère, je me suis sentie insultée. Voyons, Christy, tu demandes pas ça à quelqu'un, t'es-tu enceinte? Tu parles d'une question de merde.
Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il t'a jamais vu en personne.
Fait oui, mais là, au moins, c'est sur le texto. Si ça avait été sur Twitch, j'aurais vraiment été fâchée, là. Non.
C'est moins insultant. Mais c'est ça. Moi, j'ai ce défaut-là. J'accumule. Puis là, à un moment donné, ça, tout ça sort en même temps. Puis bien souvent, c'est que j'ai comme les arguments qui viennent avec. Parce que ouais. c'est comme 6 mois que je les accumule.
Mais c'est ça le problème.
Puis là, tu parais comme de la mauvaise personne.
Oui. T'es un peu débile parce que tu ramènes des affaires du passé, tu sais.
Ouais.
C'est juste que t'es tellement traîné longtemps.
Ouais.
Par exemple, je travaille là-dessus. Moi, je sais pas si t'es comme ça, mais moi, je traite tac au tac. S'il y a quelque chose qui fait pas une semaine ou une journée où j'ai un mauvais feeling, où j'adresse. J'adresse constamment. Si je sais que j'ai pas été correct, je le dis. Si j'ai senti que t'as pas été correct, je te le dis. Il y a ça qui quand même important au quotidien.
Moi, j'ai pas ça, j'accumule.
Ah ouais?
Ouais, j'accumule, puis quand je vais faire du sport, là, tout ça, ça sort, puis le lendemain, ça revient. Mais tu sais, il y a des gens qui vont, sans le savoir, qui sont constamment méchants. Mais j'ai l'impression qu'un jour, ça va leur revenir dans le visage.
Moi, j'ai pas de
croyance nécessairement, là, tu sais, malheureusement. Je pense qu'après, c'est fini, c'est terminé. Merci, bonsoir. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont revoir cette leçon de vie.
Mais karma.
Quelque chose qu'ils ont toujours fait subir aux gens, à un moment donné, ça va arriver pour eux.
Absolument.
Puis on le souhaite pas, mais des fois, les gens ont cette belle leçon de vie.
Mais tu récoltes ce que tu sèmes dans la vie. Mon père m'a toujours dit ça. C'est l'affaire qui m'a le plus répété. On récolte ce que l'on sème, puis sans être ésotérique, là, je crois beaucoup à ça. Si tu récoltes de la merde, il y a un moment ou un autre où ça va te revenir en face. Ton jardin sera pas bien, bien fleuri.
C'est ça. Moi, je mens pas. En fait, je mens jamais à 99,9%. Il reste un petit segment où je m'embarque jamais là-dedans. Chérie, j'ai-tu engraissé?
Oh!
Mais le fait de constamment dire la vérité, quand quelqu'un te demande de lui dire la vérité, je me suis toujours fait reprocher ça.
Oui, ça passe pas toujours bien. Hein? Tu manques de tact.
Oui, mais tu sais, un oui, c'est un oui. Un non, c'est un non.
Ouais.
C'est tout.
Moi, j'admire ça. Je te lance un compliment ce matin. J'estime beaucoup ça de toi. Prends-le.
Regarde.
Ah oui, t'es épiné raide. Ça t'a fait l'effet. Hein?
Ben oui. 10 ans plus.
C'est tout ce que je vais te donner ce matin.
C'est l'air climatisé, coudonc.
Quel épais.
Mais oui, on se fait reprocher ça. Mais c'est sûr que si ta blonde te dit « Chérie, j'ai dû engraisser, les gars, on ferme nos gueules. »
Oui, non, non, mais là, tu...
Tu dis même pas un autre compliment, tu sais.
Hey, je demanderais même pas ça à mon chum, parce que je veux pas savoir la réponse.
J'ai-tu engraissé? Tu dis pas, t'es belle.
Puis, c'est... Non, mais le pire, c'est que t'as pas de voie de sortie. Hein. J'ai déjà dit une fois à mon chum, ah, je sais que j'ai pris une coupe de livre, je me sens un peu tant mieux. Mais non, t'as pas pris... Hey, si tu m'en vois pas, je rentre plus dans mes culottes. Tu sais, vous avez pas de voie de sortie. Que tu dises oui ou non à ta blonde, ouais. C'est sûr que d'un bord ou de l'autre, tu vas te faire ramasser.
Puis, tu sais, je suis très imparfait, fait que ce qui fait en sorte que des fois, je suis porté à juger un peu facilement. Puis on est en train de se promener l'autre jour. Là, je vous fais rentrer dans ma vie en sacrement.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis en train de me promener avec ma blonde. On était au Mont-Bélair. On va souvent se promener là. On va faire nos sports là. Puis on a bien du plaisir. Et il y a une fille qui passe. Puis ma blonde dit, tabarouette, son dos est belle, ses culottes. Je dis, oui, ça fait des belles fesses. Et tabarouette.
Elle était pas contente.
Et... Ben là, elle a des plus petites fesses que moi.
Oh non, elle s'est mise à se comparer. En plus, ta blonde est minuscule.
Ouais, mais ben, les filles, je sais que c'est propre, c'est juste propre à ma blonde, mais elle se compare. Les filles, d'habitude, elles se comparent pas avec les autres filles.
Non, 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 on va faire les vraies affaires, on se compare toutes.
Ah ouais, vous comparez
mais
toutes.
Mais là, voyons donc.
Vous comparez toutes.
Gros mensonge.
Fait que là, je dis, ben oui, ça fait des belles petites fesses. Et calvaire.
Mais faut que tu apprennes à reconnaître ce que t'aimes chez toi. Je pense que c'est ça le truc avec le temps, tu sais. Fais l'exercice avec ta blonde. C'est quoi t'aimes sur ton corps? Qu'est-ce que t'aimes chez vous? Arrête de te comparer, là.
Ouais, mais la comparaison, j'en ai souvent parlé. Cessez de regarder les autres filles sur Instagram.
Ah, mais c'est tough, Yann. Voyons,
dans
il
nos
juste
rêves,
ça.
Dans nos rêves, vous regardez toujours les filles. Mais c'est plus la façon dont ils s'habillent, la grosseur des bras, la grosseur des fesses, ça, les seins. Vous comparez tout le temps.
Mais oui. Moi, j'ai un complexe de bras épouvantable.
Des fois, c'est ce qui amène du malheur dans votre vie.
Absolument.
La tristesse. Là.
Tu vois du beau linge ou des beaux kits, mais t'as l'impression que ça te fera pas bien parce que t'as pas la même shape que la fille en avant de toi.
Ouais.
T'sais, aussi pire que tu vas regarder... Il y a un moment dans ma vie où je me suis mis à suivre des compte, à mon sens, super inspirant. Tu sais, d'entraînement, puis de recettes, puis de... J'étais dans un air un peu fitness, là. Puis je me suis rendu compte au bout d'une couple de mois que c'était plus négatif que positif, finalement. Parce que sur le coup, je me disais, hey, le compte est super bien fait, tu sais, on me donne des trucs, on m'aide. Sauf que je me comparais toujours à la shape de la fille, puis j'essayais de faire les mêmes exercices, puis j'avais jamais la même shape, tu comprends? Parce que de base, on n'avait pas la même morphologie, la même grandeur, le même poids.
Les réseaux sociaux, c'est un cancer pour ça, pour les comparaisons. Tu sais, t'es célibataire, tu viens de te faire crisser là, c'est le 14 février. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Mm. Le 14 février, à la fête des amoureux. Là.
Mais tu te fais mal. C'est ça que tu fais. Tu te fais mal.
Tu sais, moi, je me suis fait ça, moi. Quand je me suis séparé avec la mère de mes gars, ben là, moi, j'étais... T'as comme un billet dans ta tête maintenant. Ouais. Fait que tu t'en vas sur Facebook, ça fait comme une semaine que t'es séparé, t'es dans ton logement, il y a un seul matelas à terre, c'est ton seul meuble. Puis là, tu regardes Facebook, puis là, tu vois des belles photos de famille. Asti. Ferme Facebook.
Ah non, non,
ferme Instagram.
C'est couteau dans la plaie. C'est ridicule.
On va au chute Kabir Kuba. On s'en va courir. Puis il y avait une des amies à ma blonde qui était là. OK? Les filles disaient, hey, on aimerait ça prendre une photo en regardant la chute.
Ben
ce qui
oui.
fait en sorte que moi, je me suis proposé. Écoute, deux filles qui regardent la chute. Puis je dois.
T'as une belle vue, hein?
Hein?
T'as une belle
mais
vue.
Mais la chute est incroyable.
Ouais, c'est ça. C'est que la chute. Ben ouais. Oui.
Fait
que ouais,
là, moi, je prends une photo. Je trouve ça super beau.
Oui, le paysage.
Eh hey boy, quand les filles
elles se sont pas aimées.
Ont vu des c'est photos sûr. D'elles de dos,
c'est sûr.
Écoute, ils ont dit, on va aller te porter à la maison, puis nous autres, on va aller faire notre jogging au Mont-Bélair.
Oh, voyons donc! Hein? Puis le pire, Yann, là, c'est que tu sois toute petite ou que tu aies un surplus, là, tu trouves toujours le moyen de te critiquer. Il
ouais.
Y a des filles que je connais c'est qui sont dur. Petites comme des choux, mon Dieu. C'est un frame de chat. Mais ça se trouve pas assez, justement, en forme, dans le sens... Pas assez de hanches, ça se trouve pas assez proportionné. Il y a
vous
toujours quelque chose... Ah, c'est épouvantable.
Vous êtes dur avec vous autres, puis vous êtes dur entre vous autres aussi.
Absolument.
J'ai regardé des commentaires sur Marie-Mé, là, sur Facebook. Je trouvais ça hallucinant, tu sais. On est en 2024, là, commencer à comparer le corps d'une fille, puis dire, hey, elle a changé, puis elle a changé ci. Tu sais, moi, je... Gardez-vous une petite gêne.
Marie-Mé qui est tellement magnifique en plus.
Tu sais, je sais pas, ça a eu des chirurgies, là, mais les filles étaient méchantes à son égard. Ouais, mais comme ça, mais son nez, il est plus pareil. Son menton est plus pareil.
Pis...
Ses cheveux sont plus pareils. Je me dis, elle, là, Marie-Mé, là, elle est comme toi, là. Elle est comme moi, là. Tu sais, elle va sur les réseaux sociaux, puis elle regarde des fois.
Puis
là, elle peut tomber sur un message qui est un peu, là, le monde sont en train de dire, je suis faite en plastique. Là. Mm. Si je vais à côté d'une chaufferette, puis c'est trop chaud, je fonds, c'est ça?
Ouais. Non, non, non. T'es-tu au courant du dernier trend sur les réseaux sociaux avec la rentrée scolaire?
Non, pas vraiment.
Ça m'avait fait vraiment de la peine de voir ça. J'ai TikTok sur mon sel, mais il faut savoir, je l'ouvre vraiment pas souvent. Okay? C'est comme pas, je sais pas, c'est pas une habitude que j'ai.
Moi, je suis tout le temps là-dessus, au moins deux fois par jour,
pas
à
vrai?
Raison d'à peu près 5 à 10 minutes par jour. Ça dépend du repas
que
j'ai mangé avant.
Mais le pire, c'est que j'ai réalisé... Le pire, c'est que j'ai réalisé que des fois, t'as plein de bons intervenants, t'as plein de bons mondes là-dessus qui font des affaires intelligentes.
Vraiment? Farnell est là-dessus?
Oui, absolument. Mais c'est comme ça que les gars l'ont découvert. Tu sais. On parle du vulgarisateur d'actualité qui était là ce matin, d'ailleurs. Là, sa chronique est sur YouTube et sur nos différentes plateformes, blvd.fm. Mais le nouveau trend sur les réseaux sociaux, au moment où on se parle, c'est des filles et des gars, des jeunes filles surtout, qui vont mettre une vidéo d'elles. Okay? Donc, elles se filment, elles sont debout, elles font un tour sur elles-mêmes, s'approchent de la caméra, puis ils disent, bon, là, mettons, je rentre en secondaire 1, 12 ans. Je veux avoir un glow-up, qui appelle eux autres. Fait que je veux être plus belle, je veux me mettre à mon avantage. Qu'est-ce que vous me suggérez? Qu'est-ce que je dois changer sur moi? La jeune fille poste ça, et là, c'est les commentaires qui embarquent. Fait que toi, mettons, qui es un utilisateur, tu vas aller sur TikTok. Salut Sarah, ben moi, tes cheveux sont un peu fades. J'irai faire une teinture un peu plus brune, puis je mettrai des chandails plus décolletés pour mettre en valeur ta poitrine.
À 12 ans.
Ah, oui, oui. Moi, mettons, ben écoute, je trouve que ton style n'est pas vraiment parfait. J'irai plus dans ce genre de couleur-là. Je me maquillerai de telle façon. Le but, c'est de faire à cette fille-là littéralement une transformation pour qu'elle soit plus à son avantage. Mais tu sais, ça prouve à quel point, au-delà de regarder sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas nécessairement sain pour nous autres entre nos deux oreilles, on demande conseil au monde pour nous critiquer physiquement. C'est littéralement une demande de critique.
Fais-moi mal.
Ben oui.
J'ai déjà entendu.
Regarde-moi, Yann, puis dis-moi ce que je dois changer. Voyons, commence donc par assumer. Tu sais, si tu as choisi ta garde-robe comme elle l'est, c'est probablement parce que c'est du linge que t'aimes à la base.
Ouais.
Là. Fait qu'assume-le, puis porte-le, tu sais.
Oui, mais arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer sur les réseaux sociaux. Moi, c'était en raison de mon algorithme, je vois pas ce que toi, tu peux voir. Là. Fait que, tu sais, Farnell, moi, il est tout le temps. Il passe tout le temps sur mon TikTok. Là, peu importe, à chaque fois que je l'ouvre, il passe tout le temps. Parce qu'il est dans mon algorithme. Puis j'écoute souvent des affaires de même. Mais ce nouveau trend-là, je ne l'ai pas vu passer, malheureusement. La petite chez nous, ça a commencé. Là. Elle a demandé à sa mère des trucs pour le dessous des yeux.
Oui, du cache-cerne.
Du cache-cerne. Mais... Tu sais, moi, j'ai dit.
Elle ne sûrement même pas à son âge.
J'appelle bébé. Je dis, écoute, bébé. Va dormir.
C'est un truc naturel.
C'est un truc naturel.
Ça coûte rien.
Mais elle a dit non, ça prend du cache-cerne. Fait que là, les affaires de petite fille, c'est commencé. Mais les gens sont méchants. Puis les filles, vous êtes méchantes envers vous autres, envers vous autres même.
Oui, mais c'est difficile en même temps parce que on est méchantes envers nous-mêmes, mais c'est que tu vois tellement de... Tu sais, il y a des modes qui reviennent vestimentaires, mais au niveau justement du maquillage, des coiffures, des coupes de cheveux. Tu sais, tu veux faire partie de la plus grande masse pour pas te faire mettre de côté, mine de rien, là.
C'est peut-être parce que je décrochais depuis un bout. Moi, je reviens à mode à peu près aux 10-12 ans.
Mais toi, t'es assez simple là, dans ton linge, là.
Exact. Fait que je reviens à mode à peu près aux 10-12 ans. J'ai toujours un style de multimillionnaire. T-shirt, jinx. Claque.
Oui, mais Yann, il y a une affaire. On va dire les vraies choses, mettons. Là.
Ouais.
T'es pas un pichou non plus. Là. C'est facile à dire quand t'es pas laide dans la vie. Je veux dire, on jase de ça, moi, puis toi, puis on juge bien, mais il y a des gens qui sont malheureux avec ce qu'ils sont, puis qui cherchent à faire autrement, puis à se dénaturer pour se sentir mieux, puis rentrer dans cette masse.
Puis ça, c'est se comparer sur les réseaux sociaux, ça va vous aider.
Ben non, mais je te dis pas que ça va aider, mais les gens sont désespérés.
Ça aidera jamais.
Ben,
mettons qu'on parle comme avec le Doc Boucher, là, qui est le spécialiste. Là. C'est
des
lui qui aime
gros,
les petits gros. Là. Tu sais, tu. N'aime pas ton apparence, tu es capable de vivre avec ça, il n'y a aucun problème. Tu n'aimes pas ton apparence, tu te mets en mouvement puis tu changes les choses.
Oui, mais il y a des choses que tu peux pas changer, Yann. Si tu as l'air d'un pichou, tu as l'air d'un pichou.
Oui, mais mettons ton poids.
Oui, ça, tu peux le bouger, mais je veux dire.
Tu dis, regarde, moi, je considère que j'ai 30 livres de trop, je suis capable de vivre avec ça. Regarde, c'est tes affaires, c'est ta vie, tout ça. Mais si ce 30 livres-là, il te gâche la vie à toi un matin quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois plus à zone. Ben, faites quoi?
Totalement.
C'est de se mettre en mouvement. Là.
Mais tu sais, tu parlais tantôt de chirurgie puis de marimée, mettons, là. Je veux dire, quand quelqu'un va prendre une décision esthétique, chirurgicale, là, tu vas te fier à ce qui plaît le plus dans la société. Aux dernières nouvelles, là, c'est pas le nez bossu, là. Tu comprends?
OK, mais ça, là, par texto, 418-971-101, les gens qui ont déjà eu ce type de chirurgie-là, là, moi, j'ai toujours pensé que le médecin traitant, là, qui te parle, puis qui va dire, ben moi, je vais modifier ton nez, et il va toujours par la symétrie de ta face puis la forme de ta face pour te proposer un nez qui va vraiment fitter avec ta face. Toi, tu m'apprends, puis en même temps, je me l'ai fait dire il y a deux semaines, qu'il y a des filles qui vont sur Internet puis qui arrive avec une photo
je veux sonner,
au médecin en disant je veux... mais ça n'a pas de bon sens, ça peut pas continuer comme ça.
Mais c'est pas pour rien qu'on a un modèle en tête quand on parle de la petite fille parfaite sur Internet. Il y a eu la mode Kardashian. Il y a des femmes qui vont... Mais oui, exactement. Il y a des femmes qui vont au Brésil se faire des fesses. Ils se font grossir le derrière, là. Ils se font mettre des hanches, ils se font enlever un peu de ventre, ils se font mettre une courbe, si on veut, sablier à la taille. Parce que, je veux dire, on n'a pas toutes le même body, là. Il y en a qui ont un body petit tonneau, il y en a qui... non, mais...
J'ai le goût de te présenter un gars, fait « Ah ouais, il a de l'air quoi? Il a de l'air comment? » Il donne des petits tonneaux.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire. L'image est forte, mais en mode, ils utilisent beaucoup ça. J'ai eu la chance, à un moment donné, d'aller dans une soirée avec Véro Bergeron, il y a une couple d'années, où on nous prenait notre taille là, pour magasiner et tout, puis on nous disait « Toi, ton corps, il est fait comme ça. »
Moi, mettons, un petit tonneau.
Non, mais si ton corps est fait en H, mettons, ou en V, ou en X...
En H.
Dépendamment. Oui, en H, c'est un petit tonneau. C'est que tout est drette. Tes épaules sont la même largeur, là, tu comprends, que tes hanches. Là. Ben, tu vas t'habiller pour équilibrer. Les gars, le but, c'est que vous ayez l'air d'un V. Fait que les épaules plus larges que les hanches. Les filles, c'est qu'on ait l'air d'un sablier, donc d'un X. Fait que tu vas accentuer à la taille. Comprends-tu ce que je veux dire?
Les filles, faut qu'elles aient l'air d'un sablier.
Oui, ben oui. T'sais, la taille, là, avoir vraiment la taille. Pas un tonneau, là. Tu comprends pas l'image. Je la comprends pas. Ça veut dire que tout le monde ne la comprenne pas.
OK. Mais donc, une poitrine qui est à peu près l'équivalent des hanches.
Si tu veux. Les hanches plus larges, les épaules plus larges, la taille plus fine.
Ah, ça, j'aime ça.
Bon, tu vois, tu viens de prouver exactement le point de toute cette discussion des 17 dernières minutes.
Ça,
mais
j'aime ça.
Acceptez-vous qui dit, ben oui, acceptez-vous, mais il est comme moi, j'aime ça.
Non, mais il y en a qui... Tu sais, moi, j'ai des chums de gars qui ont toujours sorti avec des filles qui étaient enveloppées, là.
Ben oui.
Puis il se faisait écœurer quand il avait 18, 19, 20 ans. Ces filles-là sont devenues la mère de leurs enfants. Puis aujourd'hui, ces femmes-là sont assumées, sont magnifiques et ont 35 ans.
Absolument.
Mais t'as raison que peut-être au secondaire, on avait plus de critères comme sur l'esthétique. Mais à un moment donné, quand l'amour embarque, ça va au-delà de
ça. Mon chum m'a dit qu'il me préférait toutoune. Quand on s'est rencontrés, je pesais presque 200 livres. Je te jure sur ma tête. Je pesais presque 200 livres. Puis il m'aimait beaucoup. Puis ben, quand on est arrivé à Québec, j'ai perdu beaucoup de poids. Bon, là, j'en ai repris un peu depuis, là. Mais j'ai perdu un bon 35 livres en tout et partout. Okay. Là.
Puis là, il t'a reproché d'avoir perdu du poids?
Bien, il m'a pas reproché, mais à un moment donné, quand j'avais recommencé à prendre du poids, parce que j'ai recommencé à vivre normalement, puis moi, je suis une foodie, puis j'aime la vie, là.
Ouais.
Je trouve que j'ai repris du poids. Puis il m'avait dit, t'sais, Audrey...
Je t'aime, Totone.
Non, mais moi, je t'aime en forme. En forme avec des poignées d'amour, tu sais. Ah,
ton chum, c'est un génie.
Ben non, mais il a tout compris.
Oui.
Fait à trouver un Alexis, c'est ça que ça veut dire.
Bon, hey, plein de choses à vous jaser, aux amis. Oui. On a plein de sujets. D'ailleurs, ce sujet-là était vraiment pas prévu. C'est la première fois que ça arrive. C'est grâce à Audrey. 10h19, vous avez des choses à nous dire. C'est 418-971-1012. On va parler tantôt vers 10h50. Tu connaissais-tu... les années 80, toi, tu les as-tu vécues par l'entremise de quelqu'un qui est à peu près né dans ces dates-là?
Ben
mettons?
Oui, parce que t'en... Ben oui, je vais te dire oui. Là. Je les ai pas vécues de mon vécu,
ouais.
mais oui.
Nous autres, dans les années 80, quand on était à l'école, on nous parlait d'un sportif, un joueur de basket. C'est Magic Johnson, de mémoire, OK? Puis ce gars-là avait eu le sida.
Ouais.
Puis Magic Johnson, ben, il y a encore le sida, là. Mais Magic,
il est rendu à 65, là.
Magic Johnson, c'était un joueur hyper populaire là, au basket. C'était comme, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Joe Sakic, tous les joueurs que nous autres, on connaissait au hockey. Mais Magic Johnson était très connu en tant que joueur de basketball. Puis ils nous ont dit, Magic Johnson va mourir, il a le sida. Donc, protégez-vous. Fait que tu comprends que nous autres, qu'on n'avait pas encore eu de relation sexuelle, dans notre idée, c'était justement de ne pas pogner le sida avec la fille avec qui on allait coucher, tu comprends?
Ouais.
C'était comme à l'extrême.
C'était par la peur que vous étiez éduqué un peu.
Automatiquement, dans les premières relations sexuelles, c'était toujours protégé. Mais là, avec tout l'avancement des technologies, avec les découvertes de certains médicaments, dont la trithérapie pour ce qui est du sida, ben c'est rare en sacrifice maintenant que les gens meurent du sida. Ils vont peut-être mourir du sida, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, il y en a un qui est Bernard Laberge pendant la pandémie qui est décédé. Lui, il avait arrêté de prendre ça parce qu'il disait que c'était comme une invention du gouvernement.
Ouais.
Puis il y avait le sida, puis il est malheureusement mort du sida. Ben c'est rare en sacrifice que quelqu'un meure du sida, là, jeune maintenant. Fait qu'on dirait que les jeunes n'ont plus cette
habitude-là. On n'a plus peur des maladies, bon, puis ça se règle.
C'est une petite crème de 3 jours.
Mais c'est ça, genre une gonorrhée, c'est pas grave à la pharmacie.
Là, il y a des maladies qui étaient quasiment éteintes qui reviennent.
Oui, ben, entre autres la syphilis.
La
syphilis, là, tu recules, mettons, en 98, il y avait juste 3 cas déclarés au Québec. Okay?
Fin 80, sais-tu comment on appelait la syphilis?
Vas-y donc.
La syphilis grimpante.
Pour vrai? Mais écoute, peut-être que le terme va revenir parce que là, en ce moment, on est à 1200 cas par année.
Ouais.
Fait que ça a vraiment augmenté. Mais il y a comme une épidémie silencieuse d'ITSS qui reviennent. Puis on dirait qu'il y a plein de questions à se poser. C'est-tu parce qu'on fait plus assez de sensibilisation? Moi, on en faisait beaucoup de sensibilisation à l'école.
C'est comme si on revenait aux années Peace and Love.
Je sais pas, hein, peut-être.
Là, on va parler avec Dr Jean Longtemps qui va être avec nous,
qui est infectiologue, mais oui.
Sur l'épidémie silencieuse. Mais c'est comme si maintenant, là, on revenait aux années 50-60 où c'est pas grave, t'as
on
pas
laisse
besoin
la
de te protéger.
Ben oui.
On laisse la vie aller.
Il arrivera ce qui arrivera.
Il arrivera ce qui arrivera.
C'est juste tannant quand c'est, mettons, une herpès avec laquelle t'es pogné à la vie.
Bébé, quand je mets du caoutchouc, je sens rien.
Oh.
Vous
êtes trop nombreux à l'avoir dit, celle-là.
Puis la connaissance aussi. Tu sais, les cours de sexualité, là, ils ne sont plus comme avant. Là, moi, j'ai entendu une femme de 30 ans dire « Non, je ne me suis pas protégée. On ne l'a pas faite par en avant, on l'a faite par en arrière. »
Ah, parce que ça change quelque chose, oui.
Puis ma blonde était là, ma blonde était infirmière clinicienne. Puis elle a regardé son amie.
T'es-tu épaisse?
Puis là, moi, je parle pas. Tu sais, tu fermes ta gueule. Là, tu dis pas un mot. Puis elle a regardé son amie, elle dit « Tu le sais, c'est la même chose si l'autre est infecté.
Ouais, tu peux l'attraper de façon orale aussi en passant.
Mais j'avais été surpris de voir qu'une femme de 30 ans
puisse
dire ça. Ben non, mais on n'avait pas de condom. Fait qu'on ne l'a pas fait par en avant, on l'a fait par en arrière.
Ouais, il y a un petit manque d'éducation encore. Puis on va pouvoir démystifier tout ça aussi. Tu sais, les mythes. Moi, je me souviens là, qu'il y avait beaucoup de choses qui se promenaient à l'école secondaire, pas des ITSS, mais des mythes, où on disait, mettons, tu peux attraper ça, ça bolle. Hey, j'ai appris à squatter sa toilette assez jeune, m'a dit j'avais assez peur de pogner quelque chose dans la toilette publique.
Tu pouvais attraper ça, ça va.
Nous autres, il y avait plein de mythes comme ça qui se promenaient. Ben, mythes ou réalité, on regardera avec Docteur Longtemps, mais ça s'attrape pas juste sexuellement, mettons, cette ITSS-là. T'sais. Fait qu'on était vraiment peu heureux.
Moi, je me suis jamais assis sur une bolle publique. Là.
Non plus, ça m'écœure.
Puis c'est pas la raison, c'est pas pour pogner des maladies infectieuses, c'est juste parce que ça m'écœure. Toilette des gars, là, sérieux, je me demande ce que les gars font.
Vous êtes chanceux en partant, là?
Non, mais c'est parce qu'il y en a qui sont chanceux, qui sont capables de te l'aligner. Ouais. C'est des Lucky Luke du jet. Mais il y en a d'autres que tu te dis, voyons, comment il a fait pour crisser ça au plafond?
Au plafond! Dans les toilettes publiques, surtout les bleus, là, c'est épouvantable.
Il y en a. Partout. Ouais. Je te dis comment ces gens-là font. Fait que tu comprends que.
J'utilise la technique non environnementale du papier de toilette. Fait que je me fais un gros coussin de papier de toilette si j'ai besoin de m'asseoir.
Tu te fais un gros nid.
Oui.
T'assois là puis t'embarques sur TikTok.
Qu'on va en jaser tantôt.
Cool.
Avec Jean Longtemps, infectiologue. Et bienvenue dans l'Open Mic.
Les vulgaires machins avec obsolète sur les ondes de boulevard 10h24. 10h26 minutes, vous êtes sur les ondes de boulevard 101. Audrey Pinchot qui est en feu. 10h26
degrés.
On va marquer l'heure, là. Audrey est en feu. Hier, dans le retour, je te sentais comme. Vous allez me laisser mon opinion.
Oh mon Dieu, oui, tu parles de ça.
Ouais, j'étais dans mon char puis je riais de ça.
Ben, c'est parce que hier, on a parlé d'une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux où tu vois des policiers dans un bar à Val-Bélair, le brou patente, là, qui ont fait une intervention puis ils sont comme 8 policiers.
Ils étaient 16.
Ah, il était 16 en réalité?
Il y en avait une couple dans le bar, puis il y en avait d'autres à l'extérieur. Là,
parce qu'il y a eu des altercations à l'extérieur avant que ça rentre à l'intérieur. Mais je ne savais pas qu'il était 16, vois-tu? En tout cas, dans la vidéo, on en voit à peu près 8. Là. Puis ça prouve justement que c'est hors contexte. Puis là, on avait le sujet du taser. Est-ce que le taser devrait être plus utilisé pour éviter justement de te débattre avec les policiers, tu sais, puis pour la sécurité des policiers? Puis Véro puis Denis étaient bien pour le taser. Puis moi, je disais, ben non, ça n'a pas de bon sens, ça marche pas. Tu sais, t'es 6 policiers, t'es capable d'arrêter un homme sans l'électrocuter. T'es capable de. Tu sais, c'est. Roger Ferland nous en avait jasé, ex-OSPVQ, que sont 5 pour une raison, la tête, les 2 bras, les 2 jambes. la mobilisation est rapide, là. Mm-hmm. Ça se passe bien, là. Fait que moi, mon point, il est un peu là. Si tu normalises le taser, c'est parce qu'il y a comme... C'est, tu te fais électrocuter, là, tu
sais. Il n'y a rien de pire pour le policier puis pour le suspect quand c'est du 1 contre 1.
Ah, ça, c'est sûr.
Parce que le policier va toujours vouloir avoir le dessus sur le suspect puis va devoir frapper le suspect pour que le suspect
dans
se
laisse... Dans ces cas-là, moi, je suis d'accord.
Pour que le suspect se laisse menotter.
Oui, puis on a eu beaucoup de témoignages hier que le taser a bien des utilités puis il y a même des gens qui se sont déjà fait taser qui nous confiaient qu'une chance que les policiers avaient ça parce qu'à ce moment-là, ça se passait pas bien, l'intervention.
Ça, c'est la base. Du one-on-one, on essaie d'en voir le moins possible dans le milieu policier parce que le suspect et ou le policier peuvent se faire blesser.
Absolument.
Ce que M. Ferland a dit, il a entièrement raison. Quand il y a une intervention qui est faite sur un individu, puis l'individu, il est en crise, les cinq policiers qui arrivent, pour le commun des mortels dont je fais partie, tu dis, voyons, crise 5 contre 1, ça n'a pas de bon sens.
Mais la raison est logique.
Mais c'est plus efficace pour le suspect qui se fait arrêter parce qu'il ne se fera rien casser.
Il ne sera pas blessé.
Il ne se fera pas donner un coup de botte d'en face.
Non.
Il
ne
se fera pas donner un coup de poing derrière la tête.
Tête protégée.
Il va être immobilisé rapidement, puis la tête va être protégée, effectivement, durant l'arrestation. Puis les bras, ben, ils vont aller en arrière tout seul parce qu'il va avoir la force d'un homme ou d'une femme pour remettre le bras derrière le dos du suspect, puis le menotter. Fait que là-dessus, il a raison. Le problème étant, quand on a reçu ton ami policier...
Oui, Danny Morissette.
Dans le temps de mon grand-père, fait que là, ça date de plusieurs années, là, je te parle des années 60-70, mettons même 50, il embauchait les policiers pour leur corpulence et leur bon jugement.
Oui.
Puis quand il arrivait d'un bord, 5-6 policiers, puis il y avait une bagarre générale, ils se battaient avec les 5-6 qui faisaient la bagarre générale. Ils les embarquaient dans le char, ils les amenaient à la maison. Ça se passait comme ça. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Tu dois être hyper performant à l'école. Ta corpulence n'a aucune importance. Tu dois avoir une certaine forme physique si tu te respectes comme policier.
Ah oui, il y a des tests physiques.
Mais une fois que tu as passé les tests physiques, si tu ne te respectes pas, puis tu deviens obèse, puis tu n'es pas capable de marcher, puis tu fais juste rester dans ton char, puis tu ne fais pas d'exercice, ben tu vas devenir un policier qui peut être un danger pour toi, mais pour ton collègue aussi, parce que tu ne seras pas capable de suivre ton collègue qui, lui, est en forme lorsqu'il court après des suspects ou lorsqu'il y a des interventions. Donc, on accepte tout le monde maintenant dans la police. Homme comme femme, fort comme moins fort, brillant comme peut-être des fois moins brillant. Mais ça fait en sorte que il y a des escouades qui ne sont plus capables d'arriver contre un individu. Et ils vont pareil, les policiers se font blesser. Mais là, vous n'avez pas utilisé vos armes de service? Ah, bien là, j'avais mon arme à feu, mais le gars, il n'était pas armé, il n'y avait pas de couteau, rien.
Pas de raison de l'utiliser.
Ma matraque dans un bar avec des cellulaires, ça peut vraiment être mal perçu. Fait que qu'est-ce qu'il me reste comme autre arme défensive?
Le taser.
Il reste le taser. Fait que là, toi, tu vois, tu te dis, bien voyons, Yann, ils sont 8 dans le bar, le monsieur, il est seul, il est en crise. Tu te dis, il aurait pu le prendre à 8.
Oui, puis on n'a pas de contexte.
T'as-tu vu l'espace restreint où il était?
On n'a pas de contexte, effectivement, à la vidéo. Puis ben moi, tu vois, je voyais un espace... Il y avait une table, bord, là, mais je veux dire, il y avait un trou de chaque bord, là, à mon sens. Il y avait des affaires à faire, mais en même temps, je peux pas juger, j'étais pas là.
C'est ça. Il y a à peu près 1,5 mètre entre le mur et le bord. Moi, j'ai été dans ce bord-là. Ouais. Là, c'est un garage, là, c'est tout petit.
Ouais.
Puis il y a à peu près 1,5 mètre entre le mur et le bord. Fait que c'est un endroit qui était très restreint. Fait que les 5 policiers pouvaient pas embarquer là.
Puis mon seul point dans cette discussion là, d'hier, c'était de dire si on normalise le taser au point où tu n'as plus besoin du jugement des policiers, c'est la solution efficace quand tu fais une arrestation.
Ouais.
Pour moi, ça revient au même que quand tu étais dans les années 80 puis tu vargeais à coups. Dans le sens que on essaie d'avoir un certain décorum puis un jugement, justement. Fait que moi, j'ai confiance en le jugement des policiers par rapport au taser dans cette vidéo-là. Mais mon point, il était juste là. Faut pas que ça devienne une normalité dans le sens que les policiers sont plusieurs pour une raison. Okay. Il y a d'autres techniques avant d'arriver là.
Breaking news. Le taser va être utilisé de plus en plus.
Ah, puis c'est correct quand nécessaire, sauf qu'on va toujours remettre ce jugement-là des policiers en question.
Oui, mais ça va toujours être le taser parce que la CNESST ne traite pas nécessairement à voir des policiers se bagarrer avec des suspects parce que, à un moment donné, les assurances doivent embarquer si le policier est blessé, puis ça coûte extrêmement cher. Fait que les nouvelles techniques policières, c'est ils veulent s'assurer que autant qu'eux soient en sécurité, que le suspect soit en sécurité, puis c'est le taser.
Mais l'autre affaire, c'est que le taser, en passant, il n'est pas accessible à tous les policiers. Là. Ça, c'est une autre chose qu'il faut savoir. Ils ne te l'apprennent pas à Nicolette. Là. C'est une formation externe quand tu commences tes stages, puis tu te ramasses dans la police. Ouais. Faut que tu ailles dans certaines villes pour avoir la formation, puis pour pouvoir avoir un taser, puis l'utiliser, tu sais. Mm. Fait qu'en partant, je veux dire, si on s'en va là, va falloir mettre des règles, va falloir le faire de la bonne façon. Mais bref, c'était l'ostinade d'hier. Puis moi, Véro Bdenou, on n'était pas d'accord.
Mais toi, ce qui t'impressionnait, c'est qu'il y a le fait qu'il y avait 8 policiers dans le bar pour un seul individu. Puis tu dis,
ça m'impressionne pas pantoute.
Mais il aurait pu l'arrêter à 8.
Bien, en fait, mon point, c'était. Puis encore là, t'as pas de contexte. Puis la discussion a été menée ailleurs. J'ai confiance que dans cette vidéo-là, s'il utilisait le taser, il y avait sûrement une raison. Puis le gars devait être complètement désorganisé. Il y avait des bouteilles d'alcool, il y avait plein d'affaires autour, là. Mais moi, c'était le principe général du taser qui me dérangeait. Fait que je peux pas parler pour cette vidéo-là. Je veux dire, j'ai confiance. Ils font bien ce qu'ils font.
Le monsieur est en crise, puis tu sais, il n'y aura pas d'enquête là-dessus. Là. Je veux dire, tout a été fait en bonne et due forme. Personne de blessé. Le monsieur a été à l'hôpital.
Mais il aurait sûrement été capable, pour vrai, de le maîtriser à 8 policiers contre un. Là. Il était pas armé. Là.
Mais je répète, l'espace n'était pas adéquat.
T'attends qu'il sorte.
J'y étais dans ce bar, mais il voulait pas sortir. À un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses. Là. Il y a 8 policiers dans le bar qui peuvent faire d'autres choses sur la route que tenter d'intercepter un bonhomme qui ne répond plus de ses actes un bar.
Surtout s'il était plus à l'extérieur.
Il faut t'agir le plus rapidement. Tu l'assommes avec le taser, tu le sors par les pieds, tu le menottes, tu l'envoies à l'hôpital pour qu'il se fasse vérifier. Puis après ça, ben, il doit faire face à la justice. Mais je te sentais alerte hier.
Oui, ben non, mais ça me fait tellement rire. Tu dis ça, Yann, puis c'est rare que je tiens un point. Tu sais, moi, je suis cette personne-là super nuancée. Il y a du monde en radio à Québec là, qui sont très extrêmes dans leur position, qui ont une opinion très, très arrêtée. Je suis pas dans cette gang-là. Je suis très nuancée. Je comprends ton point, je l'analyse, j'adhère à certaines affaires. J'ai mes opinions aussi, tu sais, puis je modère avec tout ça. C'est rare que je tiens un point. Puis hier, c'est juste que c'était drôle parce que je tenais un point qui n'était pas le même que mes collègues. Puis là, je sentais qu'il fallait quasiment que je dise « Ben oui, vous avez raison.
Tiens ton
le taser, c'est la vie. »
Tiens ton bout, Audrey.
Moi, non, mais on a resté.
On a la chance d'avoir des femmes d'opinion ici. On veut les garder, puis tiens ton bout. Quelqu'un qui me dit, c'est un commentaire très pertinent, oubliez pas que le taser n'est pas un outil défensif, effectivement.
Ouais,
c'est
maîtrise.
Une arme de contrôle et de maîtrise. Dès qu'on tombe en agression, dans le tableau national de l'emploi de la force, le taser n'est plus à la bonne place. On tombe en technique physique puissante ou arme intermédiaire, bâton poivre. C'est un outil magnifique dans une bonne situation. Je suis un grand fan d'avoir plus d'outils à ma ceinture.
Oui, puis je pense que la question probablement que les policiers se posent toujours aussi, c'est ma sécurité est-tu en jeu, là? C'est là que tu utilises que sur ta ceinture, là.
Si ta sécurité est en jeu, c'est le gun.
Mais oui, non, mais je veux dire, il y a des étapes, Yannick. Tu pourrais donc pas être policier. Il y a des étapes. C'est pas le gun automatiquement, hein?
Vous m'avez pas, vous voyez?
Oui, c'est ça.
Et elle vous voit même arriver vite quand tu sors ton gun. Ça m'est arrivé en passant aux États-Unis. C'est ça à toi, je racontais mon interception aux États-Unis. Oui. Le policier, il agisse pas pareil comme les policiers de la Ville de Québec. Les policiers de la Ville de Québec, là, ils s'en vont directement dans l'angle, je pense que c'est un 45 degrés vers ta porte, ce qui fait en sorte que si tu es armé, tu dois comme te revirer pour essayer de le tirer, puis lui, il va te voir avant même que tu essaies de le tirer. Mais il n'a jamais son gun dans les mains, tu sais. Mais les policiers américains, certains, quand ils étaient interceptés sur l'autoroute, la nuit, du moins, le mien, il avait son gun directement.
Il tenait son gun,
là. Ouais. Fait que lui, il était prêt. Tu sais, moi, le méchant qui était à moto sur l'autoroute, qui vous louvoyait sur
l'autoroute. Mais autres, ils envoient de toutes sortes, là.
Mais je veux dire, c'est très dissuasif, là.
Mais oui, non, mais c'est sûr, mais en même temps, tout le monde a des guns aux États-Unis. Je veux dire, maintenant, t'as pas le choix comme policier de te protéger, là.
Moi, j'ai mes deux mains, parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne comme ça, là. Tu dois mettre tes deux mains sur le guidon quand tu te fais intercepter par un policier. Fait que j'ai mes deux mains sur ma moto, puis le policier a sa main sur son gun. Tu le vois peut-être un peu plus rapidement.
Mettons
que c'est le service de police de Ville-Québec. Bonjour, monsieur. Tu sais, c'est...
Yes, mister. It's okay, mister.
Hey, plein de choses à jaser avec toi. Hey, c'est le 11 septembre. Ça te rappelle-tu des souvenirs, toi, le 11 septembre? T'avais quel âge?
Ben là, mon Dieu, j'avais 6 ans. Fait que c'est sûr qu'en frais de souvenirs, on s'entend. J'en ai probablement beaucoup moins que la majorité des gens. Je me souviens des images, je me souviens des histoires, je me souviens de la panique, je me souviens de la sécurité accrue dans les aéroports. Mais j'ai pas des souvenirs aussi frais, probablement, que toi, tu sais.
Moi, c'était particulier parce que, tu sais, la radio de Québec était... Tout le monde écoutait la radio de Québec, là, mm-hmm. ce matin-là. J'étais à l'écoute. J'étais un auditeur à ce moment-là. C'était en 2001. Et ma conjointe de l'époque faisait son doctorat à l'Université Laval. Non, c'était pas son doctorat. Elle finissait son bac à l'Université Laval dans les tours de psychologie à l'Université Laval. Puis moi, ben bon, je parlais en montant, fait que j'écoutais pas nécessairement la radio. La radio jouait, mais j'écoutais pas ce qu'il disait. Je jasais avec ma blonde de l'époque. Fait que là, je la laisse là. Puis à un moment donné, j'entends Jeff dire « Hey, 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 hey! Il y a une tour qui vient de... » Il y a un avion qui vient de se crasher dans une tour. Mais moi, j'avais déjà quitté l'Université Laval. J'avais déjà quitté les tours de psychologie à l'Université Laval. Mmh. Ce qui fait en sorte que j'étais persuadé, mon premier réflexe, c'était qu'il y avait un avion qui était rentré là.
Oh mon doux, OK. Fait que toi, pour tu pensais que ta blonde était probablement décédée.
Oui, ben, tu penses toujours au pire. Pour après ça, comprendre que ça se passait à New York et tout ça, puis là, j'ai levé le son. Je suis arrivé chez nous, puis toute la journée, ça a joué. Il y en a qui étaient à l'école à ce moment-là. Les enseignants ont dû dire aux élèves qu'il y avait eu des attentats aux États-Unis. Je me souviens des images du président de l'époque, George W. Bush, qui était dans une classe... Puis son assistant ou encore un bodyguard lui glisse à l'oreille comme quoi il y a des attaques terroristes actuellement à New York. Son visage, ses yeux qui tombent comme « Hein, qu'est-ce qui se passe là? »
Ah, puis ça doit être marquant.
C'est moi le fucking président des États-Unis.
Faut que je fasse de quoi, faut que je réagisse là. Puis le pire, c'est que tu aies vécu cet événement-là ou pas. Tu sais, moi, très, très jeune avec l'école, on avait des petits voyages. Fait que tu y allais à New York. Fait que quand ils ont comme reconstruit, puis ils ont fait le mémorial. Puis encore aujourd'hui, quand tu vas à New York, près des anciennes tours, je vais dire, donc du mémorial, tu as encore des gens qui se promènent, qui disent avoir été dans la tour. Tu sais, moi, j'ai rencontré à un moment donné un des cuisiniers qui montrait des photos de sa face là, dans le petit livre d'archives du 11 septembre 2001, puis que c'est un survivant, puis comment il a vécu cette journée-là. Puis, tu sais, il y a encore beaucoup d'histoires qui se promènent chaque année à New York par rapport à ça. Tu sais, ça va faire 25 ans dans deux ans, là. Puis chaque année, je veux dire, tout le monde en parle. Peu importe où vous pitonnez aujourd'hui, à TV, à radio, tout le monde en parle encore parce que ça a été marquant. Puis ça a fait des changements de notre bord aussi, justement, tu sais.
Ready? A plane just hit the World Trade Center.
What?
The 737?
It what?
Like the World Trade Center.
Who are you talking to? Oh, God. Oh, my God.
C'était complètement fou. Tu sais, je regarde les images actuellement. Là, c'est un rappel que j'avais sur YouTube ce matin. Je regarde les images puis je me souviens de ça comme si c'était hier, alors que c'était en 2001 et en 2024.
Oui.
Du jour au lendemain, tout a changé. Les gens ont commencé à être méfiants envers les gens qui étaient plus bronzés. Quand tu étais un peu plus foncé, puis tu avais un nom un peu plus exotique, puis tu passais aux douanes américaines, tu étais regardé comme si tu étais un terroriste.
Ouais,
alors qu'avant 2001, tout allait bien, là.
Ouais.
Je veux dire, nous autres, on allait dans le secteur de la base militaire de Valcartier, on allait se promener là en moto ou encore en char. Puis du jour au lendemain, on a fermé la gate. Mm. On n'avait plus le droit de passer. Tout était hyper surveillé. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y en a qui ont changé de job en se disant « Hey, moi, ça peut finir demain matin, mon affaire. Ouais. » Fait que je vais faire
une job urgence de vie aussi,
qui me donne peut-être un peu moins d'argent, mais qui va peut-être me rendre un peu plus heureux. Tes enfants, peut-être toujours, ça peut être la dernière fois que tu les vois. Mm. Tu sais, tu modifies peut-être ta façon de faire avec tes enfants. Si tu les laissais dormir pendant que toi, tu allais travailler, maintenant, avant de partir, tu leur donnes des becs.
Ouais.
Il y a plein de choses. Ce genre d'événement-là t'a fait énormément réfléchir.
Ah, c'est épouvantable. Puis encore aujourd'hui, c'est marquant même pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Je me permets de vous faire une suggestion.
Oui.
C'est un film qui est sur Netflix. Il y en a des documentaires là, sur le 11 septembre. Là. Il y en a tout plein. Mais c'est un film qui a été fait pour revenir sur le parcours de l'avocat bénévole Kenneth Feinberg qui a réellement existé. Et lui, après les attentats du 11 septembre 2001, ou même l'attentat gars du marathon de Boston. C'est lui qui a été nommé pour faire la rémunération des victimes. Savoir combien vaut une vie, finalement, pour les proches. C'est-à-dire, oui, vous avez perdu votre mari dans l'attentat du 11 septembre 2001. Bien, voici combien valait sa vie. Puis là, chèque, tu comprends, pour la compensation. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas une... Il y a le côté moral de « il n'y a pas une vie qui vaut la même chose dépendamment de ce que tu faisais dans la vie, du salaire que tu faisais, de ce que tu ramenais à la société. » Fait que c'est très, très moral. C'est particulier comme film.
Dis de même, je me dis « Eh, sacrifice. »
Ça s'appelle « Worth ».
Dans mon cas, le chèque serait pas gros.
Ça s'appelle « Worth, à quel prix en français ». C'est sorti en 2020. Ouais. Puis c'est une vraie histoire, mais le film est sacrément bien fait. Puis tu files pas bien.
Non.
Tu vois les différentes histoires, les différentes familles, les victimes, puis tu te dis « Eh, mon Dieu, que c'est inhumain. »
T'sais, moi, à mes yeux, une vie, c'est une vie. Là, que tu sois un mécanicien ou que tu sois un juge de la Cour suprême, c'est la même vie. Là.
Bien, lui, de façon bénévole comme avocat, a essayé justement de plaider des montants plus gros pour certaines familles, pour des pertes.
Donc,
t'sais.
De voir qu'il y aurait un chèque peut-être un peu plus gros parce que l'autre était un juge de la Cour suprême. Moi,
t'imagines. C'est épouvantable. Mais je te le conseille vraiment si tu ne l'as pas vu. Ouais. Fait que Worth sur Netflix, c'est comme un autre angle, en fait, à ces attentats-là.
Ouais. Il y a un appel qui m'avait marqué. Moi, la fille est dans l'avion. Elle se rend compte que l'avion a été hijacké, puis elle décide d'envoyer un message à ses enfants.
Oh. Tuesday, 9:47 a.m.
Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.
C'est sur le répondeur.
Hey, ça donne des frissons, hein?
Ouais.
Je pense que c'est ça, je pense qu'on réalise pas. On sait combien il y a eu de morts, on connaît les faits de cet événement-là. On a tellement entendu parler, c'est perturbant aussi, fait que ça nous fascine, mais je pense qu'on oublie un peu le côté humain derrière ça. T'sais, moi, j'arrive pas à réaliser, je sais combien il y a eu de morts, mais c'est tellement loin en même temps, autant que c'est proche, t'sais, que même, je me souviens que j'avais eu un petit moton dans la gorge quand j'avais vu pour la première fois le mémorial qu'ils ont fait vraiment dans le trou des tours avec tous les noms gravés.
Ouais,
là.
T'avais-tu vu avant à New York, les tours?
J'avais 6 ans, j'ai vu des photos et des photos, mais je les ai pas vues en vrai.
Nous autres, on avait été en voyage scolaire, je pense que je devais avoir 16-17 ans, puis on avait été visiter les tours du World Trade Center. Puis là, quelques années plus tard, je retourne au même endroit, puis ces immenses tours qui étaient à côté de moi n'existaient plus. C'était deux trous béants.
Oui, bien c'est ça. Puis là, les deux trous, ils ont fait quelque chose de super beau avec ça, qui ont maintenant terminé. Là. Mais je me souviens que j'avais eu le moton de réaliser. Puis l'affaire, c'est que tout le temps, des gens autour de ce mémorial-là, là, puis comme je disais tantôt, il y a du monde qui ont vécu les attentats, qui sont là aussi, qui ne restent jamais bien loin pour partager leur histoire. Fait que tu es capable de rendre ça un peu vivant, mais c'est difficile quand même de réaliser, puis des extraits de même, ça donne froid dans le dos.
Exactement. Ah oui, on a plein de sujets à jaser. Il y a un film, toi, que tu as vu hier, c'est hier ou avant-hier que tu as vu ce film-là, Ridge.
Rebel Ridge.
Rebel Ridge.
Hey, c'est sur Netflix, cette affaire-là.
Hey,
si
on
ne
l'a
pas
vu.
On
ne l'a pas vu pareil, toi puis moi.
Non, mais j'étais surpris. Le pire, c'est que quand j'ai voulu t'en parler, je t'ai dit, hey, je pense que tu vas aimer ça, Yann.
Ouais,
puis,
je
puis
l'avais
tu m'as dit
vu.
Pas tant.
Je l'avais vu. C'est un film sur la corruption policière. Là.
Ouais.
Puis le synopsis, sans trop rentrer dans les détails, c'est un homme qui arrive dans une ville pour essayer d'aider son cousin à sortir de prison. Puis il doit donner un certain montant d'argent pour le faire sortir de prison en attendant qu'il puisse avoir un procès juste et équitable et tout ça. Puis il est intercepté par des policiers. C'est un homme qui est noir, extrêmement bâti. Puis là, les policiers commencent à le fouiller, puis ils découvrent qu'il y a de l'argent. Puis là, l'argent est réquisitionné. Et là, on découvre que le gars a quand même une base militaire.
Ouais.
on va dire ça. Il est capable de se battre et se rebelle contre le shérif. Le shérif, là, c'est le gars de Miami Vice. Là.
Mais non, mais c'est... Moi, pourquoi t'as pas aimé ça?
C'est Don Johnson.
Oui. Mais en fait...
Pourquoi j'ai pas aimé ça?
Oui.
J'aurais aimé parce que l'acteur est en shape pour donner une coupe de claque. Là.
Aaron Pierre.
Oui. Tu sais, puis ma blonde a dit, c'est pas le dernier à avoir pigé dans le sac à face, là.
Non, mais
c'est un noir
très
avec
beau
les yeux
bon
verts.
Homme, là. C'est un très, très, très bel homme.
Un noir avec les yeux verts. Des fois, j'arrivais
dans
le
magnifique.
Salon. Hein? Des fois, j'avais le malheur de quitter le salon. Je revenais dans le salon, puis c'était sur pause, sur sa face.
Oui, puis son personnage. Mais c'est-tu, moi, c'est ça que j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était différent des films de pow-pow habituels.
Ben, j'aurais aimé ça. Ouais.
Tu sais, il s'est pas fâché. Au contraire, le personnage d'Aaron Pierre est très, très calme, posé. Ça fait quasiment plus peur, moi, je trouve, parce que tu sais jamais ce qu'il va faire, comment il va réagir. Il reste très, très très poli, mais il observe autour de lui, justement, ayant une base militaire puis des entraînements assez précis dans le passé. Fait qu'il observe autour de lui que, OK, corruption policière, OK, je serai pas aidé, c'est pas mes amis. Comment je me sors de là? Comment je récupère mon argent? Puis comment je les expose? Non, moi, j'ai trouvé ça super bon. Ça dure à peu près 2 heures. C'est sur Netflix. C'est dans le top 10 là, depuis à peu près... Ouais. C'est sorti vendredi passé.
Peut-être en raison de mes attentes là, de voir un film d'action, mais je te dirais que moi, c'est un 4 sur 10. Là.
Ah, à ce point-là? Ouais.
Puis la face de l'acteur, ma blonde, elle aurait donné un 12 sur 10.
Oui, oui, mais ça, je suis d'accord avec ta blonde. J'aurais même été à un 15. C'est Terry Richmond qui fait ce personnage-là.
Terry Richmond?
Pas Terry, excuse-moi. Aaron Pierre qui joue Terry, plutôt. Okay. Anna-Sophia Robb, qui est l'autre personnage principal. Bon, Don Johnson, tu l'as nommé.
Don Johnson, là, je sais que toi, tu ne l'as pas connu à son prime. Là,
non.
Mais les filles le voyaient à la télé, il fallait passer à MOP, là.
Ah ouais, hein, c'était The Boy. Là.
Il était à Miami Vice, dans Miami Vice, c'était un flic avec son chum qui était flic aussi, puis il patrouillait, sérieux, il leur arrivait plein d'affaires. Il y avait tout le temps des chars hyper exotiques.
Ouais.
Je veux dire, il n'y a pas un flic à cette époque-là qui gagnait un salaire, qui pouvait faire en sorte qu'il pouvait se payer ce type de voiture-là. Puis aujourd'hui, il joue des rôles de méchants.
Ouais.
Alors que...
Ça y va bien.
Avant, c'était vraiment des rôles de playboy. Là.
Mais ça y va très, très bien, je trouve. Puis moi, j'ai tout aimé. Là, même la fin du film, j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai trouvé que ça s'étire un peu à la fin. Là. On aurait pu couper bien avant ça, mais non, juste assez d'action pour moi, juste assez de... Puis j'ai trouvé ça différent des films dans le même genre qu'on voit d'habitude. Fait que moi, je le recommande vraiment. Là, si vous avez du temps, bon petit film. Puis, tu sais, Netflix en produit beaucoup, là, des séries, des documentaires, des films. Il y a beaucoup de bons stocks, mais c'est rare. On dirait que j'accroche ces films sur Netflix. Plus une fille de série.
Ouais, c'est assez tranquille, les films sur Netflix.
Vraiment. Puis parlant de séries, rapidement, là, je vous pitch ça, là. Je l'ai terminé hier, The Perfect Couple. J'en ai parlé un peu dans le retour, là, mais c'est une série, ça a l'air qu'éteint, dis-le même, Yann vire les yeux, attends.
Couple parfait.
Oui, mais c'est une ironie. C'est pas... Puis je trouve ça plate parce que ça donne la mauvaise impression, mais c'est une histoire de meurtre. Puis t'es dans une famille super riche qui cache mille et une affaires, puis la soirée d'un mariage, il y a un meurtre. Et on retrouve un corps sur la plage, puis c'est une enquête policière pendant à peu près... C'est 6 épisodes, si je me trompe pas.
Chuck Norris, es-tu là-dedans?
Non.
Bruce Willis, es-tu là-dedans?
Non.
Bon, c'est de la merde.
Mais c'est des très bons acteurs. C'est super bon. Ça aussi, c'est dans le top 10 Netflix.
Ça s'appelle comment? Hein,
The Perfect Couple. Je te le dis, tu vas être surpris, je pense.
C'est autant pour les gars que pour les filles?
Absolument. Il n'y a rien de quétaine là. Tu sais, la base, là, tout se passe dans le premier épisode en passant du synopsis que je vous ai raconté là. Fait qu'il n'y a aucun punch. Là.
Y a-tu un qui arrive à un moment donné, yippee-ki-yay, motherfucker?
Non.
Non?
Non, mais je suis désolée. Je sais, c'est pas ça qui arrive. Mais il y a Nicole Kidman là-dedans, entre autres. Vous la connaissez très bien,
oui.
De nom. Non, c'est super bon, je vous le conseille. Fait que deux affaires à regarder sur Netflix prochainement.
Nicole Kidman qui se défend bien là, dans le sac à face, là, 57 ans.
Ah, c'est une très belle femme.
Oui, ça... oui.
Très belle femme.
Je sais pas si c'est mes yeux qui vieillissent, là, mais quand j'étais jeune, les femmes de cet âge-là avaient de l'air extrêmement vieilles.
Oui, mais là, Yann, il n'y a rien de surprenant dans ce que tu dis là.
Puis,
là.
Oh, tu sais, moi, j'ai connu... Écoute, mon père avait de l'air très vieux, puis il avait une trentaine d'années, avec la grosse moustache, puis il s'habillait comme les gens s'habillaient à l'ancienne, avec des culottes velours cordées.
Oui. Mais c'est la pente descendante.
Aujourd'hui, je regarde les femmes de 60 ans, elles sont magnifiques.
Ben oui, mais non, mais aujourd'hui, on prend soin de nous pas mal plus qu'on le faisait
avant. C'est les cosmétiques
avant.
Qui ont fait la différence?
Pas juste ça. Je veux dire, on prend soin de nous, point, tu sais. On est plus conscient dans nos choix de vie au quotidien. Je pense que oui, effectivement, tout ce qui est chirurgie, esthétique, cosmétique, ça aide. Là,
les femmes de
60,
70 ans ont toutes leurs dents maintenant, c'est...
Oui,
contrairement
aussi,
à l'époque.
Oui, il y a... Ben, écoute, on a évolué, Yann, bienvenue.
Oui, on s'améliore. 10h50, merci Audrey.
Après une prise de bec en studio...
Tu sais, Steve, 10h56, vous avez des choses à nous dire. Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, les amis. 418-971-1021. 418-971-1021. Actuellement, sur Québec, c'est très confortable. Il y en a qui sont habillés encore un peu légers. On est des soldats, on n'abandonne pas. Il y en a d'autres qui ont des petites laines pour aujourd'hui. C'est vos affaires, c'est 13 degrés actuellement. Un ciel dégagé pour aujourd'hui, plein soleil, maximum de 22. Avec l'humidex, ça peut être une température ressentie de 25. Ciel dégagé pour ce soir, minimum de 9 degrés. Jeudi, ce sera du soleil, maximum de 22. Avec l'humidex, ça va être une température ressentie de 26. Vendredi, ensoleillé, maximum de 25. Et le week-end, breaking news! Ensoleillé pour samedi avec un maximum de 24. Dimanche, ensoleillé avec un maximum de 26 degrés. Commencez à fermer à la maison, mais.
Ah ouais, tranquillement pas vite!
Ouais, pour faire le terrain. m'occuper du cabanon, serrer les affaires.
À ces temps-là, moi, j'aime
tôt?
Ça. Ah, je pense pas. Mais ben, quoi, il y en a encore des belles températures, c'est ça, cette semaine. Là. Fait que j'attendrai peut-être un, deux semaines, mais
parce qu'après ça,
chez nous aussi, on ramasse tranquillement pas vite.
Après ça, c'est le feuillage.
Oui, c'est ça l'affaire.
C'est les feuilles qui arrivent. Circule, Audrey?
Il y a des petits problèmes si vous êtes sur la 20 direction ouest en ce moment. Entre la route du Président, en fait, plus entre Chemin des Îles et Taniata, le bon ralentissement à prévoir. Robert Bourassa, direction nord, à la hauteur de la capitale, il y a un petit ralentissement également. Sinon, ben, ça roule quand même bien là, pour l'instant, quoi que ce soit, 971-102, texto.
Audrey, tu voulais nous parler d'une épidémie silencieuse, d'ITSS.
Oui, mais là, c'est qu'on entend toutes sortes d'affaires là-dessus. J'ai vu des articles passer. Il y a des magazines qui ont fait des dossiers complets sur ce phénomène-là d'épidémie silencieuse d'ITSS. Puis un peu comme on disait tantôt, c'est des maladies qui reviennent, qu'on n'a pas vues depuis longtemps pour certaines. Je pense à la syphilis dans les années 2000. Il y avait comme 3 cas. On est rendu à comme 1200 en province. Ça éclate, puis on se demande pourquoi. Mais nous autres, on n'est pas infectiologues, on n'est pas docteurs, on ne connaît pas ça. On fait attention à nous autres. Mais
non,
je veux
mais
dire,
attends un peu, le syphilis, t'écris ça comment? Là?
S-Y-P-H-I-L-I-S.
Syphilis.
tu fais des recherches, là?
Image.
Ouais, c'est pas chic. Moi, je veux pas voir ça. Garde ça pour toi, OK?
OK!
On a au bout du fil Jean Lontain, qui est infectiologue, qui va peut-être pouvoir répondre à nos questions par rapport à ces nombreux chiffres-là, parce que selon l'OMS, c'est plus d'un million de nouvelles ITSS, pour la plupart asymptomatiques, mais qui sont contractées chaque jour sur la planète. Évidemment qu'il y a des pays où c'est pire que d'autres, mais on fait pas exception sur la montée, du moins. Donc, M. Lontain, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là. Je sais que vous avez une grosse semaine, Dr. Lontain. On est-tu revenu aux bonnes années là, du Peace and Love, où les gens se foutent un peu de se protéger avec ce que vous voyez, vous, passer à l'hôpital?
Oui. c'est pour ceux, en fait, mais pas, je dirais pas le Peace and Love, mais là, je vais faire de l'âgisme, là. Mais, tu sais, dans les années 90, là, ouais. On se protégeait parce qu'on avait peur
du sida.
De mourir du sida.
Ouais.
On avait peur du sida. Les gens, on y avait, vous rappelez, il y a des endroits où le monde en décédait, les vedettes, écoute, on se rappelle de Freddie Mercury, de faire le même. On se protégeait, en fait, il y a toute une génération qui a été fortement marquée par ça. Ouais. Avec l'arrivée de la trithérapie des années fin en 96, là, d'un coup, le VIH est devenu une maladie qu'on pouvait contrôler. On n'en mourrait plus, heureusement, c'est une très bonne nouvelle. Mais là, petit à petit, l'utilisation du condom a vraiment diminué. Et c'est uniquement une question de précaution.
Parce qu'on était dominé par la peur au secondaire. Nous, on avait une vedette du basketball qui s'appelait Magic Johnson. On avait appris qu'il avait contracté le sida. Puis tout le monde nous disait, les profs nous disaient, ben Magic Johnson, il a le sida, il va mourir. Donc nous, nos premières relations sexuelles au secondaire, vers la fin du secondaire, vous pouvez être sûr qu'on mettait la petite portion de caoutchouc qu'il fallait mettre, là.
Ah, vraiment. T'sais, moi j'ai fait toute mon université avant la trithérapie. Moi, t'avoue que les parties, il y avait de l'alcool, mais on se protégeait. T'sais. Fait que on est ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est vraiment une question de précaution. Puis on voit que l'utilisation du condom chez les adolescents, les jeunes adultes, ça s'utilise encore. Mais au fur et à mesure, notamment avec la contraception hormonale, ben l'utilisation diminue parce que le condom a deux rôles. Fait que si on a moins danger de tomber enceinte, à ce moment-là, ça passe, on l'utilise moins. Donc c'est en hausse. Et l'autre élément, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces maladies-là qui ne donnent pas de symptômes. Passe de manière silencieuse. Donc, par exemple, on peut avoir une gonorrhée au niveau du rectum, une chlamydia au niveau de la gorge, et ça passe inaperçu. Donc, on peut voir vraiment ça aide à la transmission, surtout quand on a des relations qui sont orales. À ce moment-là, on pense pas à se protéger ou encore moins.
Il y a des ITS aussi qui malheureusement peuvent amener de l'infertilité, tant chez la femme que chez l'homme.
Exact. Et ça, c'est entre autres le problème, parce que les ITSS n'affectent pas tout le monde de la même manière. Donc, par exemple, je vais prendre la chlamydia. La chlamydia, c'est vraiment une maladie, entre autres, des jeunes femmes qui proportionnellement en ont plus. Donc, le gros pic de chlamydia, là, c'est vraiment les femmes de 15 à 25 ans. C'est la clinique. Alors que quand on arrive du côté de la gonorrhée est plus chez les hommes. Donc, vous voyez, même si les deux peuvent faire de l'infertilité, bien, la chlamydia en cause beaucoup plus chez les femmes. Et en plus, des femmes de 15 à 25 ans, bien, c'est l'âge où on ne pense pas encore avoir nécessairement des enfants, mais ça va venir bientôt. Donc, une chlamydia maltraitée qui cause l'infertilité, mais évidemment, c'est une mauvaise surprise qu'ils attendent dans le détour. Là.
Puis, est-ce que c'est vrai que certaines maladies qui peuvent se transmettre de la mère à un fœtus?
Oui. En fait, et ça, c'est la syphilis. La syphilis, c'est vraiment la pire maladie qu'une femme peut attraper enceinte. Ça se transmet dans presque tous les cas à l'enfant. Et ça fait des graves conséquences. Il y a quasiment un tiers qui vont décéder in utero, donc c'est des fœtus qui meurent. Après ça, ceux qui ne meurent pas, ben, c'est des problèmes, des déformations au niveau du squelette, des os, des atteintes cérébrales. Ça peut rendre sourd, ça peut rendre aveugle. Bref, la syphilis, vraiment pas recommandée chez les femmes enceintes. Et ça, c'est la nouveauté qu'on a depuis quelques années, parce que des cas de syphilis qu'on appelle congénital, donc un enfant qui naît avec la syphilis, on n'en voyait pas. On n'en voyait vraiment pas. Et depuis les dernières années, ben, c'est malheureusement en augmentation. Et on a eu 5 cas l'année passée de syphilis congénital. L'année d'avant, c'était 13. Il y a toujours des retards dans les déclarations là-dedans. Donc, c'est vraiment des cas qui, en 2024, devraient être
difficiles. Mais est-ce que ça se traite? Parce qu'on a l'impression qu'au-delà, le fait que peut-être, je ne sais pas, il y a moins d'informations par rapport à ça, de sensibilisation, peut-être que les tests sont plus performants aussi, ce qui explique peut-être une certaine montée. On a comme l'impression que hey, mon Dieu, je suis en train de perdre ma question bien raide. Ah oui! Est-ce que ça se traite? On a l'impression que les gens sont comme... Ça les dérange moins du genre, mais même si j'attrape une gonorrhée, à la pharmacie, ça va se soigner, puis je vais passer à autre chose, tu sais, comme si c'était plus grave.
Vous avez raison, c'est banalisé. Le VIH est dans une catégorie à part parce qu'il se traite, mais en fait, il se contrôle. Hein, fait qu'on n'est pas capable de guérir d'un VIH. Mais ça, c'est à part. Dans le cas de la syphilis, de la gonorrhée, de la chlamydia, on peut les traiter. On les traite des antibiotiques. Mais dans certains cas, on est rendu avec des injections. Donc, par exemple, une syphilis, ça va prendre une piqûre d'un muscle, de 1 à 3 piqûres, dépendamment du type de syphilis qu'on a. Pour la gonorrhée, quand on a certaines gonorrhées, ben, ça prend absolument aussi une injection. Donc, c'est plus aussi facile qu'avant. On sait qu'on prenait toujours des comprimés. Deuxièmement, ben, pour être traité, il faut avoir été testé. Mm-hmm. Et le problème est là, parce qu'encore une fois, beaucoup de ces maladies-là peuvent passer inaperçues. La syphilis, c'est la pire. La syphilis, elle vient vraiment par phase. Puis, au début, ça passe un peu inaperçu. Puis, ça fait une petite lésion initiale. Puis ça guérit tout seul. On dit, mais ça part. Mais ça revient après. Mais entre les deux, on peut encore le transmettre. Donc, ces maladies-là sont souvent transmises par des personnes qui n'ont pas de symptômes.
Okay.
Qui n'ont pas de symptômes, qui ne sont pas fait traiter. C'est pour ça que le dépistage devient vraiment important. Vraiment, accès à ça, ça prend des check-ups de ce côté-là. Il y a plein de cliniques qui l'offrent. C'est assez disponible. On va sur Internet, il y a des endroits même avec des rendez-vous, c'est électronique. Mais il faut vraiment sensibiliser les gens à se faire tester si on des...
Mais on se fait tester quand, docteur Longtemps? Tu sais, dans le sens que avant, moi, je me faisais beaucoup dire au secondaire, là, bien, chaque fois que tu changes de partenaire, mettons que tu as une relation de longue durée, là, tu sais, va te faire tester, être sûr que tout est beau avant une nouvelle relation. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a le Tinder facile chez les jeunes, là. Il y a beaucoup, beaucoup de relations sexuelles, contrairement à peut-être à avant. Fait qu'à quelle fréquence, dans quelles circonstances tu décides que tu vas te faire des...
Ben c'est sûr que c'est, je pense que c'est la base, c'est se faire, quand on change de partenaire, je pense que c'est la moindre des choses là, de se faire dépister. Si on en a eu plusieurs, surtout des partenaires asymptomatiques, sur des partenaires anonymes. Donc, ça dépend du facteur de risque. Entre vous et moi, c'est assez intéressant, souvent beaucoup de ces maladies-là, les gens ont tendance à se faire tester quand, ah, ben, c'est un Tinder ou quelque chose de genre. Tu sais, qui ont des relations avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, puis ils sont craintifs un peu, puis ils vont aller se faire dépister. Ou bien, dans ces situations-là, souvent, les gens se protègent. Qu'est-ce qu'on voit comme phénomène? C'est les amis. Donc, ils ont des relations sexuelles avec quelqu'un qu'ils connaissent bien. Mais dans ce temps-là, la protection, on le voit, se protège très peu. Et dans ces cas-là, on peut aussi avoir de la transmission. Donc, le quand, il y a, je pense, au moins, quand on a plusieurs partenaires, au moins une fois par année. Mm-hmm. Mais si, quand on change de relation stable avant d'enlever le condom, ben, je pense que c'est une bonne guerre, vraiment, de se faire dépister.
Docteur Longtemps, est-ce que l'éducation concernant les maladies infectieuses qu'on peut contracter sexuellement, est-ce qu'elle est encore présente dans nos écoles? Nous, quand on était au secondaire, c'était les cours d'FPS, formation personnelle et sociale, quelque chose du genre. Oui. Puis là, ils nous parlaient de ça, puis on était très au fait que tu peux contracter une maladie si tu le fais par en avant ou si tu le fais par en arrière. Et là, j'ai été surpris, il y a de ça quelques semaines, une femme de 30 ans qui nous raconte un peu une histoire. Bon, vous allez dire c'est un peu inapproprié à la table, mais elle nous a dit, ben on a fait de l'amour quand même, on n'était pas protégé, on l'a fait par en arrière, c'est pas grave. Et là, ma conjointe, qui est infirmière clinicienne, vous comprendrez qu'elle a levé de terre, là. Elle lui a expliqué, ben là, mais franchement, c'est, que ce soit par en avant ou par en arrière, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une femme de 30 ans peut arriver un jour à faire une affaire comme ça? Elle n'avait jamais eu cette information-là. C'est quand même particulier.
Mais, ben, j'avoue, surtout à 30 ans, les campagnes de prévention ont changé avec le temps pour des campagnes qui sont un peu plus ciblées. Puis ça, je pense que c'est une question à poser au ministère parce que c'est eux qui font ces campagnes-là. Les populations qui sont très à risque sont déjà très informées. Maintenant, les communications sont plus ciblées. Mais vous avez raison, ça échappe ceux qui sont, en guillemets, moins à risque, comme le cas que vous citez, et qui attrapent beaucoup. Et que là, il y a comme un trou au niveau des communications par rapport à ces personnes-là. Moi, j'en vois beaucoup des personnes un peu plus âgées qui en attrapent parce que à 30, 40 ans, ils reviennent sur le marché parce qu'une rupture après une longue relation, ben, c'est même plus un réflexe de se protéger. On dirait qu'ils disent, ah, ben, les ITSS, c'est une maladie de gêne, si on ne l'attrapera pas à mon âge. Non, on peut l'attraper à n'importe quel âge. Donc, plus que ça, au niveau où c'est que tu t'es enseigné à l'école tout seul, j'avoue que là, ça sort un peu de mon expertise, mais je l'observe. On n'a plus les campagnes grand public qu'on avait auparavant.
C'est tellement, Dr. Longtemps, une question de base, là. Mais c'est quand j'étais plus jeune, nous, à l'école, il y en avait des mythes qui se promenaient, là. Et on se disait toutes sortes d'affaires, puis « Ah, tu peux pas juste contracter ça sexuellement, tu peux contracter certaines ITSS à bol de toilette aussi, puis par le sang, puis ci, puis ça. » Est-ce que c'est vrai? Comment ça se contracte des ITSS? C'est pas juste sexuellement.
Bien, c'est vraiment surtout sexuellement, comme j'aime dire. On peut l'attraper sur un bol de toilette, mais c'est inconfortable pour une des deux personnes. Ça prend vraiment un contact sexuel. Tu dis la blague à l'heure de grande
écoute. J'adore ça.
Oui, c'est ça. Mais on est dans ça prend un contact sexuel. La syphilis l'est un peu plus, puis on peut avoir des contacts qui ne sont pas des contacts vraiment, parce que c'est tellement contagieux qu'on peut l'attraper même de peau à peau. Mais à la base, ça prend une relation sexuelle. Et vous avez raison tantôt avec la question qu'on posait. Quand on a une relation sexuelle, pénétrante, hétérosexuelle, ben, le monde a tendance à se protéger. Mais quand c'est une relation orale ou anale, il y en a qui ne se protègent pas parce qu'ils ne pensent pas qu'on peut l'attraper, mais ça marche dans tous les cas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, le dépistage, on les fait aux trois endroits parce qu'on peut l'attraper au niveau de la gorge et pas l'avoir au niveau des organes génitaux. Donc, la protection apparaît vraiment nécessaire partout. Mais vous avez raison, les personnes ont tendance à moins se protéger dans une relation orale, par exemple.
Docteur Longtemps, infectiologue, merci d'exister.
Ah, bien merci, c'est un plaisir.
À la prochaine.
Bonne semaine.
Bonne journée.
Docteur Longtemps, qui est extrêmement occupé ces temps-ci, puis qui a accepté de nous accorder une entrevue concernant cette épidémie silencieuse d'ITSS. Tu m'as fourni des stats. De 2002 à 2019, l'incidence des cas de chlamydia, ça a doublé dans la province.
Oui. Ouais. Celle de la gonorrhée, c'est 7 fois plus élevé qu'en 2002. Puis pour ce qui est des cas de la syphilis, c'est 10 fois plus fréquent qu'il y a 20 ans. Comme je disais tantôt, de 3 à 1200. Puis c'est fou parce que je regardais ça, tu sais, il y a les noms qu'on connaît, là, syphilis, chlamydia, gonorrhée.
Syphilis grimpante.
Oui, toutes ces affaires-là. Mais l'OMS répertorie quand même plus de 30 bactéries, virus et parasites qui se transmettent sexuellement de façon soit vaginale, anale, orale. Fait que non, c'est assez, c'est assez particulier quand même. Ça court vite ce temps-ci et c'est silencieux comme épidémie. Fait que faites vos tests, protégez-vous.
Sais-tu qu'est-ce qui m'a le plus convaincu, moi, justement, quand j'étais jeune, de me protéger?
Mais donc.
T'sais, dans ma vraie vie, je suis quelqu'un d'hyper timide, là, puis j'étais comme ça au secondaire aussi. C'est le fait d'être obligé, si je contacte ça, d'appeler ma partenaire et de lui dire...
Je sais, moi aussi, même honte. Peur de ça, là. Hey, en passant, il y a 11h11, on se fait un vœu. Un peu superstitieux, c'est bon, là, mais c'est vendredi 13 cette semaine.
Donc, c'est... ça va?
Mais il est 11h11. Oui. Tu prends toutes les chances dans la vie. Hein?
Je viens de voir un caillot passer dans tes yeux.
Mais je le partage.
C'est d'être obligé de l'appeler, puis en même temps, en passant, si vous avez déjà fait ça dans votre vie, là, d'appeler vos partenaires que vous avez eus dans les dernières semaines, les derniers mois, moi, j'ai un énorme respect pour vous autres.
Bravo.
Moi, je n'ai jamais eu à le faire. Mais je ne sais pas comment je l'aurais fait. C'est comme,
mais qu'est-ce que tu veux faire?
Je l'écrirais par texto. Je ne serais pas capable d'y de parler. Ouais. Hey, je ne sais pas, là, mais moi, je suis obligé d'avoir une petite crème de 3 jours. Et toi?
Tu es rendu où? Oui, mais ça, c'est l'autre affaire. C'est que des fois, tu ne sais pas si c'est toi ou c'est l'autre personne.
Ouais.
Ça m'est arrivé une fois de poser la question, puis c'était dans un contexte de don de sang. Parce qu'il te demande si tu as eu des partenaires récemment, si ces gens-là avaient contracté une certaine maladie. Fait, j'avais texté mon partenaire de l'époque de 2-3 fois. « Hey, t'as rien, hein? » J'avais été un peu innocente sur ce coup-là. C'est quelqu'un, un peu comme Dr. Longtemps, c'est quelqu'un qui était très proche de moi, donc en qui j'avais excessivement confiance. Fait qu'on a été un peu innocents. Bon, il n'y a rien arrivé, là, mais reste que c'est facile de faire confiance aux gens autour de toi. Tu sais, c'est drôle, la personne avec qui je suis en ce moment, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Puis on a peut-être eu cette discussion-là une fois, c'est pas mal tout.
OK, mais moi, elle m'a obligé, là. Moi, même si j'étais en couple avec une femme pendant 16 ans puis qu'il n'y avait jamais rien eu entre les deux, elle m'a obligé d'aller passer quand mais même des tests, là.
Moi, j'y passe naturellement parce que j'ai peur, là. Moi, j'y passe naturellement parce que j'ai peur, mais l'homme, on dirait que ça vous stresse d'aller passer ces affaires-là. C'est comme si vous ne saviez pas ce que ça comprenait. Fait que...
En fait, moi, dans mon cas, c'était plus le fait que... Écoute, ça fait 16 ans que j'étais avec la même femme.
Mais ça veut rien dire. Parce que t'es peut-être porteur d'herpès, puis tu le sais pas. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça à l'intérieur d'eux autres, puis ça se développe juste pas.
T'as déjà entendu cette chanson-là?
Mais oui, je sais c'est quoi.
Elle court, la maladie d'amour.
Donc, protégez-vous.
Mettre le feu sauvage aussi, ça fonctionne de l'amour.
Mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'es dans un couple depuis 10 ans, OK? Parce que moi, je suis content d'entendre un docteur longtemps qui est infectiologue, qui est un spécialiste en la matière, mais t'es en couple depuis 10 ans, puis tout d'un coup, pouf, herpès.
Mais là, je me pose beaucoup de questions.
OK. Ton premier réflexe, c'est de l'accuser?
Mon premier réflexe, l'herpès est un phénomène particulier parce que si toi, tu n'as jamais passé de test, puis tout d'un coup, ça boum, je veux dire, peut-être que, comme je dis, c'était en dedans de toi, puis je suis pas médecin, mais c'est ce que je me suis fait dire. Fait que je pense que tu poses des questions, toi, as-tu des problèmes? Puis tu gères selon. On dirait que ça me stresse. Mais je fais partie des inconscientes. Je suis pas stressée avec ça quand c'est pas... C'est vrai que ça se guérit. Je trouve que c'est pas flatteur de dire que tu as eu la gonorrhée dans ta vie, mettons. Je trouve pas que c'est flatteur, mais je serais pas en maudit. C'est pas vrai. Ça fait 6 ans que j'étais avec mon chum, demain matin, la gonorrhée rentre dans notre couple. Clairement, c'est pas moi qui l'ai amené. Fait que je suis en maudit.
Ben, c'est ça. Mais là, moi, j'avais cette réflexion hier quand j'ai entendu votre émission avec Denis, Véro puis toi. Le chanteur des Foo Fighters.
Oui.
Qui avoue avoir eu un enfant illégitime.
Oui.
La bine, c'est crisser la bite dans le corps d'une autre personne.
Oui. Le mise en scène.
C'est pas protégé, puis il retourne avec sa femme après. J'imagine que c'est pour protéger avec sa femme aussi. On parle pas du gars le plus intelligent de la Terre, là.
Non, mais en fait, Dave Grohl était l'homme parfait jusqu'à hier. Il a failli à ses tâches. Il y a Laurent Duvernay-Tardy. Il reste lui, on a beaucoup d'espoir.
Il n'y a pas encore de scandale. J'ai tellement hâte qu'il y ait un
scandale
sur lui.
Il
n'y
a pas de scandale encore.
Quand il va y avoir un scandale sur lui, ça va devenir mon breaking news.
Oui, mais moi, là, honnêtement, demain matin, là, je ne sais pas, là, mettons que... Parce que c'est des questions que je me pose de plus en plus, je sais pas toi, mais moi, mettons, demain matin, il y a une infidélité dans le couple.
Ouais.
Tu comprends, mon chum French ailleurs, puis il revient avec un feu sauvage, là, mettons, là. Je pense que c'est plus une cause de rupture pour moi que l'acte en soi. T'as ramené des bébites à la maison.
OK. Non, moi, c'est sûr que s'il y a infidélité, c'est fini.
Sacre mouille.
Peu importe, bébite ou pas, c'est terminé. Mais dans le cas de Dave Grohl, là, je veux dire, c'est une rock star internationale.
Ah, il a pas réfléchi, là.
Tu penses-tu qu'il s'est trempé sans condom juste une fois?
Ah, mais non. C'est sûr que ça a été fait une fois, ça a été fait plusieurs fois, là.
Fait que la bine, là, il se trempait partout puis il retournait avec sa femme, là.
Ouais, mais imagine-tu comment ça a été une journée difficile pour eux hier. Puis lui, il y a une fille plus vieille, le Violet, on l'a vu sur le stage au fait que l'année passée.
Que ça a été difficile pour lui, là. C'est ça bon pour lui. Moi, j'ai une pensée pour sa femme, ses enfants.
Exactement, qu'ils doivent recevoir des commentaires et des commentaires face à ses actes à lui. Mais là, le bon côté, c'est qu'il l'a assumé lui-même. Là, on ne l'a pas appris ailleurs. Il a fait la publication pour dire que hier était née sa petite fille d'une autre femme. Fait que c'est... Non, c'est quand même
tu
assez
restes-tu là?
Hey, c'est tough.
Elle, vas-tu rester avec, tu penses?
Ben, ce qui est difficile là-dedans, c'est que ça fait comme 20 ans qu'ils sont ensemble. Tu sais, je me demande si à un certain âge, tu te poses la question, je recommence-tu tout? Ouais. Ou je reste là, je pardonne parce que c'est mon partner.
Si elle reste avec, c'est qu'elle est indépendante. Être dépendante.
Ah, je pense pas que ça a rapport avec.
Bon, persuadée.
Non, je suis pas sûre, persuadée. Yann. Il y a plus que ça, là. Il y a des émotions là-dedans. Il y a une vie. Ah. Non, c'est pas juste une question
tu
d'argent.
Tu deviens la
là.
Fille la plus cocue de la planète.
Ben oui, cocue en tabarnouche.
Puis
mais
tu
peut-être.
Passes par-dessus ça.
Puis elle doit le savoir depuis un bout aussi, j'imagine. Ouais, là, pas sûr qu'elle l'a pris hier. Là,
ouais, c'est comme les joueurs de hockey, tu sais.
Mais, hey, mais c'est drôle, ça a fait partie de nos discussions, ouais. Ça, tu sais. Est-ce que quand tu sors avec une rockstar ou tu sors avec un joueur de hockey, justement, ou un professionnel du sport quelconque, mais le foot là-dedans, mais n'importe quoi. Est-ce que c'est comme
un animateur
ça
de
vient
radio,
avec,
un
là?
Un animateur de radio,
non,
genre.
Ça va être beau, là, non, la fausse vedette.
Ça,
là.
C'est non, ça, c'est petit chum, il peut pas se défendre avec ça.
Non, mais le point, c'est est-ce que ça
c'est
vient
non.
Avec puis tu t'y attends?
C'est non.
Mais non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est exactement c'est mon point. Mais hier, la discussion était quand même intéressante parce que dis-toi que ça se pose comme question, là. Si tu acceptes de sortir demain matin avec une rock star là, qui fait des tournées puis tout, là, tu doutes un peu que la fidélité sera peut-être pas là à 100%. Là. Puis je suis d'accord avec toi. Moi, dans ma tête, c'est comme le monde qui dit « Oui, mais j'ai bu, c'est pas ma faute, assume-toi puis gère-toi. »
Ouais, c'est le gars dans les premières occupations doubles qui a dit « Je te jure. »
J'ai pas bougé.
J'ai pas bougé.
Tu sais qu'il est rendu avec un kid, hein? Un tout petit bébé, oui. Il s'est mis en couple avec une fille d'occupation double d'il y a 2 ans, là, beaucoup plus jeune que lui.
Mais
puis...
ces images-là ne meurent pas. Il va exister. Quand son gars va être plus vieux, il va regarder ça puis il va dire « Tabarouette, mon père, il s'en est assez bien sorti. »
Ils ont ouvert occupation double dimanche avec ça, avec un extrait. Ça a fait les archives. Il est-tu ridicule?
Mais
hey,
c'est ça.
Des fois,
ben,
là.
Mais tu sais, lui, là, il a mis en danger la santé de sa femme.
Oui.
Tu ne peux pas faire ça. On va se le dire, là. Tu ne peux pas tromper, tu ne peux pas mettre en danger la santé de quelqu'un d'autre.
Pas réfléchi. Tu n'as jamais été fidèle de toute ta vie?
Jamais. Quand j'étais au McDonald's, j'avais 15 ans. Je sortais avec 3 filles dans le McDo.
Oh, Yann!
En fait, j'ai fréquenté les 3, mais ils ne savaient pas que j'ai fréquenté. Ben, chacune savait que je les fréquentais, mais ils ne savaient pas que j'ai fréquenté les 3.
Ils ne se parlaient pas.
Mais j'avais 15 ans, c'est pardonnable. Je n'étais pas adulte.
Non.
J'ai fait que j'ai pas de dossier.
Non.
Mon dossier est toujours vierge.
Ça fonctionne pas, c'est pas de même, ça marche.
Hillary
c'est
Clinton.
Une question de conscience.
Hillary Clinton, son mari, il a trompé avec, là, j'allais dire, Monica Bellucci, mais c'est pas ça pantoute. C'est Monica...
J'avais entendu parler de ça.
Monica quelque chose. Lui, il dit, je n'ai jamais trompé ma femme, finalement. Ça s'est avéré qu'effectivement, il l'avait trompé. Puis il avait fait à croire qu'une fellation, ce n'était pas une relation sexuelle.
Et Lewinsky.
Monica Lewinsky. Lui, là... Elle avait fait un adresse à la Nation en disant « Je n'ai jamais trompé ma femme. » Mais ça s'est avéré qu'après ça, ben ça a été des fellations multiples.
Ouais.
Et là, une fellation, c'était pas une tromperie, selon
lui. Ils se sont asticotés 9 fois.
Hillary est encore dessus, là.
Ouais.
Elle est encore avec. Là.
Entre 95 et 97.
Oh, on peut pas comprendre ce monde-là.
Mais non, mais des fois, l'amour, je sais pas, l'apparence, le public, il y a des gens qui sont pris dans des relations aussi.
Dépendance.
Là. Peut-être.
Toujours néfaste. 11h19, on fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire. 88-971-1021.
Marceau, le soir.